I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude et malgré le confinement pour parler d'une année de ciné en particulier. Et comme d'habitude avec un invité exceptionnel. Il est auteur et réalisateur mais également créateur de la revue Ciné Bazar dans laquelle on peut retrouver des interviews exclusives de gens comme Michael Mann, Dario Argento, Walter Hill ou encore John Borman. Salut Thomas Reveuil.
Salut Thibaut, merci beaucoup de me recevoir.
Comment ça va ?
Écoute, ça va bien, on s'est un peu troublé, mais ça va. Et toi ?
Ça va bien, il est sympa John Borman.
Oui, écoute, oui, John Borman est très sympa, il est surtout... C'est un type assez sage, dans le sens premier du terme. C'est vraiment un sage pour moi et quelqu'un qui est généreux en anecdotes et qui aime partager ses conseils et sa façon de voir les choses.
Ah, j'imagine que ça a dû être une belle rencontre. Ouais.
Je l'ai contacté pour le rencontrer. Il a accepté de me recevoir chez lui en Irlande et c'était une rencontre qui m'a vraiment bouleversé.
Impeccable, génial, ça avait l'air magnifique. Et l'interview est évidemment lisible dans cette revue Ciné Bazar. Alors, un nouvel épisode enregistré donc malgré le confinement dû à l'épidémie de coronavirus. Et qui dit confinement dit cinéma fermé et donc situation exceptionnelle pour l'industrie cinématographique mondiale. C'est donc une intéressante mise en perspective de discuter aujourd'hui d'une année où le cinéma avait déjà été mis à mal, la Seconde Guerre mondiale. Au programme, le ciné français sous l'occupation nazie, l'Europe en exil à Hollywood et Raoul Walsh, l'homme qui a créé John Wayne, rien que ça. On est parti pour l'année 1941.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
In my On écoutait ça en 1941, I Don't Want to Set the World on Fire, des Inkspots. Et avant d'être du cinéma, 41 est une année bien sûr de guerre mondiale en Europe, et celle notamment de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre, un événement qui va pousser les États-Unis jusqu'ici spectateurs à entrer dans le conflit. 1941, c'est aussi dans un tout autre domaine l'année du dépôt de brevet par l'actrice Hedy Lamarr et son collègue George Antheil d'une technologie qui deviendra plus tard le Bluetooth et le Wi-Fi. C'est aussi l'année de la première apparition de Tom et Jerry, mais aussi du super-héros Aquaman et de la super-héroïne Wonder Woman. Mais 41, c'est aussi du cinéma, et on est là pour ça, et notamment du cinéma français, un cinéma entre parenthèses. Et entre parenthèses, car en 41, ce dernier est contrôlé, régulé, dirigé par le régime nazi. Bref, c'est quoi le ciné français sous le régime d'Hitler ? On est parti pour notre premier thème. Premier rendez-vous chanté par l'actrice Danielle Darrieux en 1941 en France, c'était l'un des morceaux les plus populaires. Et pourtant, en 1941 en France, c'était pas forcément la meilleure des situations, puisque la France était alors contrôlée par le régime nazi. Alors pour remettre un petit contexte historique à cette situation, la Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939, et la France est envahie rapidement par l'Allemagne nazie dès juin 1940. L'armistice est signé le 22 juin 1940 précisément. Quand l'occupant nazi arrive en France, en 1940, tous les tournages sont arrêtés, tous les cinémas sont fermés. Et 1941, pourquoi on en parle aujourd'hui avec Thomas et pourquoi c'est notre premier thème, c'est la première année où le cinéma français est sous régime nazi complètement. La mainmise nazie va se faire sur le cinéma français et va s'observer, on va dire, dans plein de petits compartiments, notamment une interdiction du cinéma anglo-saxon, une expropriation bien sûr des propriétaires de cinéma juifs, une commission de censure qui va évidemment policer et faire bien attention à ce que le cinéma français reste dans les clous de ce qu'aura dicté Goebbels. Oui, parce que le cinéma français, sous l'égide nazie, va devenir un outil de propagande. Thomas, avant de rentrer dans le cœur de notre premier thème, c'était quoi, toi, ta vision du cinéma français sous l'occupation, avant que je te demande d'en discuter dans ce podcast-là? C'était quoi pour toi le cinéma français sous l'occupation? Quelle était l'image que tu en avais?
Écoute, moi, c'est plusieurs films qui sont évidemment souvent liés à la Continentale, parce que c'est quand même cette maison de production qui fait, dont on va parler,
ouais,
qui fait une partie des plus grands films de cette période-là. Moi, c'est des films comme La main du diable de Maurice Tourneur, auquel je pense souvent. Évidemment, Le Corbeau, et puis...
Dans Georges Clouzot. Bon,
voilà, il y a d'autres films comme Les Enfants du Paradis. Et moi, c'est un cinéma, enfin c'est une période du cinéma français qui me plaît plutôt.
Ouais, qui t'avais quand même une image, c'était quand même une période qui t'intéressait avant même de
bien sûr. Après, je pense que c'est compliqué vu qu'on est en 41, on est sous occupation. Alors la France est simplement occupée au nord puisque la zone sud sera occupée en 42 après le débarquement en Afrique du Nord. Mais en fait, c'est difficile de séparer ces années-là de production cet événement.
De ce contexte, de la conjoncture.
De ce contexte, ouais. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, même
bien
si. Pour moi, l'un
alors,
ne va pas.
Alors, tu l'as cité, tu l'as nommé comme ça, la Continentale. Qu'est-ce que c'est? Parce que effectivement, en 41, pour contrôler, on va dire, cette production cinématographique française, le régime nazi va créer des structures de production de films et il va privatiser les moyens de production, la pellicule, le matériel, les lieux, les studios, etc., etc. Et va donner la majorité, enfin beaucoup de ces moyens de production, aux studios de Continental Film, qu'on appelle alors la Continentale, qui est donc un studio français sous contrôle nazi. Mais au-delà de ça, Thomas, c'est quoi la Continentale? Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est que ces studios de Continental Films?
La Continentale, c'est un projet de Goebbels, et je pense qu'on ne peut pas parler de la Continentale sans parler d'un personnage assez emblématique de cette maison de production et qui est très obscur et étrange, qui s'appelle Greven.
Alfred Greven, oui.
Et Greven va être donc qui est une personnalité du cinéma allemand qui travaille à la fois comme producteur et distributeur pour un certain nombre de maisons de production allemandes et qui ensuite devient directeur de production à l'UFA, qui est une grosse maison de production allemande qui notamment ont travaillé sur Metropolis, Docteur Mabuse le joueur ou L'Ange bleu, donc des films vraiment emblématiques du cinéma allemand des années 20-30. Et ce Greven est un fou de cinéma français. Lui va avoir la responsabilité de 98% du budget de la Continentale.
C'est un peu l'autorité générale du cinéma.
C'est un peu l'autorité, mais au niveau des choix, des réalisateurs, des sujets, des équipes techniques, c'est quand même Greven qui doit mettre en place toute cette mécanique.
Bien sûr.
Et trouver les participants qui peut intégrer la Continentale et en fait relancer le cinéma français. Il y a quelque chose d'important aussi à dire sur Greven et sur la Continentale, c'est que Greven a réussi à appâter un certain nombre de les meilleurs talents du cinéma français. Greven, quand il va chercher ses talents, que ce soit notamment les réalisateurs, il leur dit, voilà, le cinéma français depuis 1940, il est complètement à l'arrêt. Nous, on a des fonds, des capitaux allemands, mais la Continentale est une société française. Et si vous acceptez de travailler pour moi, je relance le cinéma. Ça relancera le cinéma français en parallèle des producteurs indépendants, d'autres productions. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même motiver un certain nombre de réalisateurs qui, au début, ne sont pas du tout d'accord. Mais ils vont finir petit à petit par accepter de travailler pour la Continentale aussi, parce que d'autres producteurs leur diront que c'est nécessaire pour relancer l'industrie du cinéma français et pour éviter en fait qu'on ait des réalisateurs allemands, des producteurs allemands.
Donc il va vraiment chercher les talents français.
Il va chercher ce qu'il
Et il les rassure et il leur dit, vous n'allez pas faire forcément que du cinéma de propagande, on va faire avant tout du cinéma. On va faire ça avant tout du cinéma.
De entertainment, hein, du cinéma sans message, évidemment.
Oui, parce que c'est les films de la Continentale, pour donner une idée aux auditeurs, c'est les productions qui sont quand même à l'époque assez commerciales, avec des grosses stars comme Fernandel ou donc Daniel Darieux, qui joue dans Premier Rendez-vous dans Les Deux Coins. qui sont donc des grosses productions commerciales et populaires à l'époque, qui marchent très très bien. Donc c'est pas des films d'auteur, on va dire un peu de niche ou des trucs un petit peu abstraits. C'est des trucs très très grand public véritablement et très populaires. Mais du coup, ce que tu dis un peu, c'est qu'à fait Greven, délégué de Goebbels, enfin en tout cas autorité générale du cinéma français pour Goebbels et pour la Continentale, on lui a dit de faire du cinéma de propagande et lui il va dire bah en fait je vais pas forcément faire du cinéma de propagande, je vais surtout faire effectivement des je vais faire du cinéma français parce que moi j'adore la France et j'avais lu un peu la même chose que toi sans doute, c'est que c'est un grand adorateur de la France et voilà. De la littérature et c'est quelqu'un de très raffiné et d'assez intéressant et j'ai lu aussi qu'effectivement Greven utilisait aussi la Continentale pour au-delà de pas faire que du cinéma de propagande faire également travailler des techniciens juifs et communistes et un peu s'en foutre des directives de Goebbels.
Il fait travailler des juifs, mais il fait aussi travailler des juifs parce que la légende dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou faux, qu'il aurait croisé Prévert et il aurait essayé de l'embarquer dans la Continentale. Évidemment, il a l'ambition de faire de la Continentale la plus belle maison de production. Bien et sûr. Prévert lui aurait expliqué que de toute façon, il n'a aucune chance de concurrencer Hollywood, qui eux travaillent avec énormément de juifs et qui sont, selon Prévert, les meilleurs dans le domaine du cinéma. Et évidemment, Greven, en réaction à ça, va se mettre à travailler avec des scénaristes juifs. Mais oui, effectivement, il détourne. Il se moque de certains ordres pour faire en sorte qu'il produise le meilleur cinéma possible. C'est ça qui est important pour lui, c'est de retrouver l'âge d'or du cinéma français, en fait, hein, le grand cinéma des années 30.
Comportement qui va énerver un peu Goebbels, donc le ministre de la propagande nazie, et qui va dire, et une autre citation que je vous partage, « Je suis furieux que nos bureaux de Paris montrent aux Français comment représenter le nationalisme dans leurs films. J'ai donné des directives très claires pour que les Français ne produisent que des films légers, vides et, si possible, stupides. Je pense qu'ils s'en contenteront. Il n'est pas besoin de développer leur nationalisme. » Donc voilà. Donc Goebbels, il était mécontent de la production des films français, mécontent de ce que Greven faisait du cinéma français, parce qu'il voulait que des films stupides pour les masses, et Greven leur donnait un peu plus, hein, même si ça restait très populaire. Alors moi, du coup, j'ai envie de poser tout de suite la question. La Continentale, c'était, selon toi, c'est une arme de propagande, ou alors c'était vraiment un espace de liberté à part entière pour le cinéma français?
On peut dire, en tout cas du côté des cinéastes français, c'est que pour certains films, sous une plastique assez magnifique d'ailleurs, mais on va dire classique, il y a toujours un symbolisme et parfois il y a quand même des réalisateurs français qui font passer des idées ici et là. C'est à la fois un outil de travail, hein, ça fait travailler énormément de personnalités du cinéma français. Et c'est aussi, de temps en temps, on l'utilise quand même pour essayer de passer des messages. Évidemment, ça reste parfois...
Un outil de la machine nazie, bien sûr.
Voilà, ça reste quand même parfois très... des petites touches ici et là.
Ouais. Après, si ça peut permettre de... Moi, j'y réfléchis comme ça, et c'est vrai que, bien sûr, c'est un outil de propagande nazie, et ils n'avaient pas toutes les libertés qu'ils voulaient. Je pense que Greven a fait beaucoup pour que subsiste dans ce carcan et horrible de la mainmise nazie des espaces de liberté de ci, de là. Et on peut comparer le cinéma français avec le cinéma allemand de la même époque, qui peut-être n'avait, lui, aucune marge de manœuvre à aucun niveau. Et c'est vrai qu'en comparaison, le cinéma français a pu, lui, peut-être... trouver, créer des pépites, créer des espaces, là où le cinéma allemand, qui était dans la même situation, n'a pas pu véritablement exister, parce que j'ai pas en tête comme ça des grands films allemands de la Seconde Guerre mondiale.
Sur la Continentale, j'ai deux petites choses qui me semblent importantes à dire quand même, notamment une sur Greven, qui est quand même, pour un peu souligner l'ambiguïté du personnage aussi, c'est important de noter qu'il était quand même membre du parti nazi dès 31, donc 2 ans avant l'arrivée au pouvoir de Hitler. Donc ça montre aussi, c'est pour ça que son rapport à le fait qu'il embauche aussi des juifs, tout est un peu étrange chez ce personnage qui est à la fois ouvertement antisémite, et qui en même temps a cette espèce de passion pour le cinéma.
Il est ambigu, quoi. C'est un personnage ambigu.
Il n'a pas peur de se mettre en danger pour le cinéma. C'est très ambigu. Et c'est important aussi de noter que UGC est aussi la société qui prendra le relais de la Continental. Donc la Continental, quelque part aussi, servira de fondement à UGC plus tard, qui est la société qu'on connaît tous. Mmh. Donc c'est quand même deux choses aussi importantes à dire, à mon avis, sur cette société de production très, très ambiguë et étrange.
Et tu as posé la question, mais effectivement, tu l'as dit au début, est-ce que travailler pour la Continental, c'était collaborer avec l'ennemi ? Ou est-ce que c'était faire perdurer l'idée d'une certaine France, malgré
tout ?
C'est
toute la problématique. Alors, il y a des gens qui ont travaillé pour la Continental parce que dans une optique de collaboration franche, et il y a d'autres artistes qui ont travaillé à la Continental pour permettre au cinéma français de se relever, parce qu'encore une fois, il n'y aurait pas eu de production française s'il n'y avait pas de Continental. C'est-à-dire que Greven accordait le droit à des producteurs de relancer la machine du cinéma à partir du moment où sa Continental, d'un autre côté, était active et avait son catalogue de films. Donc, il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. Et puis, c'était aussi une manière de travailler. C'est un peu un débat sans fin. Ça dépend sans doute aussi des sujets qu'ils ont traités et de comment ils ont traité les sujets. Mais c'est un débat un peu... complexe.
Un peu
fin.
Complexe, effectivement. Pour information, la Continental produira entre 41 et 44 une trentaine de films. Voilà, donc comme on l'a dit, des films à grand spectacle. Revenons sur Duncan cette année 1941 en France et sur à quoi elle ressemble le cinéma français en 1941. Alors, on en a parlé avec la Continental. On a d'un côté la naissance de jeunes talents. On va avoir des réalisateurs qui vont arriver, comme Henri-Georges Clouzot, comme tu l'as dit, qui vont réaliser des films comme L'Assassin habite au 21 ou Le Corbeau.
D'abord, il était en charge de la section des scénaristes de la Continental.
Voilà, qui a vraiment grandi au sein de la Continental, hein, Henri-Georges Clouzot. Il y a aussi également Jacques Becker, qui viendra de ce giron-là, Robert Bresson, Claude Autant-Lara, et des acteurs comme Gérard Philippe ou, on l'a dit, Daniel Darieux. Dans le cinéma d'occupation en général, on va avoir des grands films comme Les Visiteurs du soir de Carnet, Premier rendez-vous d'Henri Decoing, La fille du puisatier de Marcel Pagnol, L'assassin habite au 21, on l'a dit, Le capitaine fracasse d'Abel Gance. Donc on a un cinéma qui, avec de grands noms, avec de grandes stars, qui produit, qui fait naître des talents. Toi qui as vu des films, et on a dû voir des films pour préparer ce podcast, au-delà de tout simplement ces grands noms de films et de ces grands noms d'acteurs, à quoi il ressemble ce cinéma d'occupation ? Quelle tête il a ? Quel visage il a ?
Si on reste vraiment sur les productions de la Continental, ce qui est très important, c'est la décoration des films et la lumière. On est dans quelque chose qui est très particulier à la Continental. Y a quand même une vraie présence du symbolisme et un peu de l'expressionnisme allemand. Effectivement, par exemple, l'assassinat du Père Noël, donc, que j'ai vraiment découvert pour ce podcast, j'ai pris une claque en voyant le film. Tant visuel d'ailleurs qu'au niveau de l'histoire et de la narration. En fait, je pense que cette espèce de jointure entre l'Allemagne et la France, au niveau du cinéma, l'Allemagne apporte son expressionnisme et la France, sans doute, un peu de sa poésie aussi, de sa littérature.
Ouais.
Cette espèce de mélange des deux vont donner des films à la plastique
vraiment particulière.
Étonnante et particulière. C'est vraiment des films aussi, donc au niveau technique, qui sont très très aboutis.
Très élaborés
au niveau de la caméra.
Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de... Il y avait deux, trois choses qui revenaient assez souvent. C'est que c'est souvent des... Il y a beaucoup de drames bourgeois. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une sorte de bourgeoisie. Et puis, c'est beaucoup de drames, drames amoureux, des mélodrames, des choses, donc des drames bourgeois véritablement. Et après, c'est vrai qu'il y a toujours dans ce carcan politique. C'est des films qui ont toujours un peu la même structure. Il y a un manichéisme assez renforcé. C'est des films qui toujours, c'est des films qui restent des films de propagande, donc c'est des films qui véhiculent des valeurs forcément assez simples, voire simplistes, c'est-à-dire dans un premier rendez-vous, c'est ça, tu vois, la recherche du bonheur, la famille, chacun doit faire des petits efforts quotidiens. La guerre, d'ailleurs, la guerre et les morts et la souffrance n'est pas trop visible, mais parfois en creux, parfois tu le vois, genre t'as une mère célibataire qui doit subvenir aux besoins de ses deux enfants, donc on sous-entend que le mari est pas là parce que soit il est mort à la guerre,
oui,
soit, etc.
Frontal,
mais du coup il y a vraiment ces valeurs d'effort, de famille, travail, famille, patrie véritablement. Hein. Et puis il y a des thèmes qui sont complètement occultés comme la lutte des classes, qui étaient des thématiques très présentes dans le réalisme poétique des années 30, où t'avais beaucoup d'ouvriers, de gens qui galèrent, etc. Ça a disparu, c'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. Le sexe, on n'en parle même pas, il n'y a même plus ce ton prime sautier des années 30 où il pouvait y avoir des insinuations. Je pense à Arletty, qui était une actrice qui était très sexualisée d'une manière, hein, parce qu'elle était très grande gueule et elle pouvait parler de sexe ou de sexualité d'une certaine façon, en tout cas l'évoquer. Et puis donc, on peut parler du statut de la femme, hein, qui est renvoyé simplement à son statut de mère méritante, et encore une fois, à l'importance de la famille. Donc, c'est des films qui sont conservateurs. Hein, malheureusement, on peut pas... Enfin, ils peuvent pas faire autrement, hein, j'imagine, mais voilà, ça reste des films très conservateurs. Pour compléter un peu ce qu'on a dit avec Thomas, et on l'a un peu évoqué au début, il y a en plus de ce cinéma parisien, un cinéma de zone libre qui est donc situé donc dans le sud de la France, puisque la France est effectivement scindée en deux, il y a une zone occupée, il y a une zone libre. Et dans cinéma de zone libre, ce cinéma de zone libre va se concentrer autour de deux pôles, deux endroits, deux villes, deux studios. Le studio de Marseille, de Marcel Pagnol, et les studios de la Victorine à Nice. Et dans cinéma de la zone libre, vont jaillir du coup en 41 des films comme les Visiteurs du soir, La fille du puboutier de Marcel Pagnol, Lumière d'été de Jean Grémillon, qui est d'ailleurs, pour information, le premier film à avoir son visa au CNC. Hein, le premier visa du CNC, c'est Lumière d'été de Jean Grémillon. Un cinéma de zone libre, donc, dans lequel va être tourné 20 films, dans les studios de la Victorine notamment. Donc sur 220 films tournés sous l'occupation, on va avoir 20 films à la Victorine, on va avoir 30 films de la Continentale, et on va avoir d'autres studios qui vont comme ça produire des films sur les 4 années d'occupation nazie. Ça vous donne un portrait d'un certain cinéma français. Alors est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un cinéma de zone libre et un cinéma parisien ?
C'est quand même une industrie qui est dirigée par le gouvernement de Vichy. Donc y a énormément de lois et d'interdictions. Alors, je ne peux pas faire état des lieux de toutes les différences, mais le gouvernement de Vichy était aussi extrêmement difficile en matière de censure et de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire, et de avec qui on peut travailler, puisque les Juifs étaient aussi interdits de travail, évidemment, en zone libre.
C'est une période qui est déjà un peu méconnue du cinéma français, puisque c'est une période où on a tendance plus à se souvenir qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale qu'à se souvenir qu'il y avait un cinéma français. Mais toi, Thomas, est-ce que cette période un peu sombre, est-ce que c'est une période mineure du cinéma français, à ton avis, ou est-ce que c'est une période à oublier ou...
Non, je pense pas du tout.
Qu'est-ce qu'on fait de cette période, véritablement ?
Je pense même qu'elle est essentielle dans le cinéma français, parce que, comme tu dis, elle a lancé énormément de talents, dont Clouseau. Mais par exemple, Christian Jacques avec L'Assassinat du Père Noël, c'est aussi peut-être son premier très grand film. Donc non, moi je pense pas du tout. Il y a des grands films de Maurice Tourneur aussi. Je pense pas du tout que ce soit une période à oublier. Je pense que c'est une période qui est même essentielle et qui est vraiment fondatrice d'un certain nombre de grands films et de grands réalisateurs. Elle est importante pour beaucoup de réalisateurs.
Et puis c'est toujours intéressant de voir ce que le cinéma peut produire dans des périodes de contrition.
Le cinéma se répond toujours aussi, donc je pense qu'il n'y a rien à jeter dans le cinéma de manière générale, parce qu'on va se servir de ce qu'on a appris pendant ces années-là pour ensuite le cinéma des années 50, 60, et puis enfin tout se répond, tout est relié, et ces années-là, les années 40, sont extrêmement importantes. Autant que les années 30 ou les années 80, parce qu'en fait, elles se répondent toutes, elles se servent toutes les unes les autres.
Bien sûr, elles sont peut-être même injustement méconnues d'ailleurs, puisque...
Elles sont injustement méconnues, ouais.
Ça peut être intéressant, effectivement, de jeter un œil pour voir ce que le cinéma français produisait, donc, en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors, on va avancer, évidemment, dans notre discussion de cette année 1941. Et pendant que certains Français, effectivement, continuaient à faire du cinéma à la maison, on va dire, du cinéma dans leur pays, la France, beaucoup de réalisateurs et beaucoup d'acteurs s'étaient exilés de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, à Hollywood. On va glisser doucement vers ce continent américain avec un petit extrait sonore. Écoutez bien.
I'll tell you, all my life, others have attached themselves to me like Tiny and the dog here. But I've attached myself to nobody. No place. I'm free. I'll never be tied down.
L'acteur qui a cet anglais un petit peu particulier, on va dire, qui a cet anglais pas très bien assuré et qui a un accent bien franchouillard, c'est un acteur, l'un des plus célèbres du cinéma français, bien sûr, c'est Jean Gabin, dans le film La péniche de l'amour, Moontide, sorti en 1942 et réalisé en novembre 1941, puisque c'est le premier film que Jean Gabin va faire aux États-Unis. Donc c'est le premier film qu'il va faire à Hollywood. Alors, pour encore une fois remettre un petit peu de contexte, l'exil des talents, on va dire, européens qui partent à Hollywood, c'est pas nouveau, hein. Ça commence pas évidemment en 40 ou en 41, ça a commencé dans les années 30, bien sûr, parce que Hitler accède au pouvoir en 33 en Allemagne, ce qui du coup provoque tout de suite une première vague d'exil de la part des réalisateurs hongrois, allemands, autrichiens. Donc on va avoir des réalisateurs comme Fritz Lang, Robert Vienne, Robert Siodmak, Max Ophuls qui vont partir et qui vont aller dans un premier temps en France ou en Grande-Bretagne avant de partir à Hollywood dans un second temps. On pense aussi à Ernst Lubitsch. Pour vous donner une idée, en 1941, Fritz Lang aux USA, il va réaliser 3 films en 1941, dont un film qui s'appelle Chasse à l'homme, Manhunt, qui débute par un chasseur qui fait un attentat sur Adolf Hitler en personne. Donc ça vous donne un peu une idée générale. Ernst Lubitsch aux USA en 1941, il réalise Illusion perdue. Et il fera l'année suivante en 1942 To Be or Not To Be, qui est une comédie qui se moque littéralement d'Adolf Hitler. Donc après cette première vague de talents, on va dire germaniques dans les années 30, en 1940-1941 on va avoir une vague de réalisateurs français qui vont partir aux États-Unis. On va avoir Jean Renoir qui en 1941 réalisera Les Temps Tragiques, on va avoir René Clair qui va réaliser La Belle Ensorceleuse en 1941, et toujours cette même année on va avoir Julien Duvivier qui réalisera Lydia aux États-Unis, donc de grands réalisateurs, de grands noms qui vont aller écrire leur histoire et raconter leur histoire de l'autre côté de l'Atlantique. Thomas, comment tu le sens, toi ? Comment c'est, à ton sens, ces exilés-là, Renoir, les Français comme les Allemands même d'ailleurs, hein, est-ce que ces exilés qui sont arrivés à Hollywood, ils ont réussi à changer le cinéma américain ? Ou est-ce que c'était des simples yes-men, des simples employés, des migrants véritablement et...
Faudrait presque faire du cas par cas, parce que Hollywood, on va dire à partir du moment où Hollywood s'installe, jusqu'à aujourd'hui, quand on est un étranger et qu'on va faire un film là-bas, généralement... on se fait avaler par le studio et y a quand même peu de retours... positif. En revanche, dans ces années-là, ils ont besoin, c'est pas qu'ils ont besoin, mais ils ont cette espèce de vague de très très grands réalisateurs qui sont souvent déjà installés dans leurs pays respectifs, qui vont traverser les frontières et arriver aux États-Unis avec une expérience, avec des films. Tu parles de Fritz Lang qui était quand même le plus grand réalisateur allemand.
Oui, Metropolis, M. Les Maudits.
Renoir, très très grand cinéaste français, René Clair. Donc, il faudrait faire du cas par cas et regarder les films. Je ne pense pas qu'ils aient été, avalé par le système. Il suffit de regarder la carrière de Fritz Lang pour comprendre qu'elle est aussi brillante aux États-Unis qu'en Allemagne. Alors il y a peut-être des spécialistes
qui préféreront l'un et l'autre.
Voilà, qui préféreront le cinéma muet expressionniste de Fritz Lang ou donc sa partie allemande. Mais bon, moi je pense quand même que les grands films américains de Fritz Lang sont aussi bons que ces films allemands. Je pense que ces réalisateurs, ils arrivent avec une vision, ils arrivent avec une culture. Et ils arrivent à faire quand même de l'entertainment, parce que le Hollywood, c'est quand même avant tout, c'est ça, c'est de l'entertainment. Mmh. Donc il faut toucher, c'est un business, hein, c'est pas un art, c'est considéré comme un business, il faut gagner de l'argent, les films doivent gagner de l'argent. Un bon film est un film qui fait des entrées et non pas forcément un film qui est artistiquement, on va dire, valable ou intéressant. Je fais une toute petite digression, mais beaucoup des grands réalisateurs américains des années 30, 40, 50 ne se considéraient pas du tout comme des artistes avant que la critique, je pense par exemple à des gens comme Howard Hawks ou même d'ailleurs Raoul Walsh.
Fritz Lang, il n'aimait pas le terme artiste. Hein. Il disait, moi voilà. Je ne suis pas un artiste, moi je fais des films, laissez-moi tranquille, entre guillemets, voilà.
Voilà, c'est les critiques qui ont ensuite compris qu'ils avaient on appelle ça un body of work, donc ils avaient une œuvre, ouais. Et que cette œuvre, elle avait du sens et qu'ils avaient un style particulier.
Donc les fameuses critiques de la nouvelle vague, enfin des cahiers du cinéma qui sont arrivés dans les années 50, qui Absolument. Ont du coup donné un sens à ce principe d'auteur, mais avant qu'ils arrivent et donnent un sens à ce principe d'auteur, ben, les réalisateurs, c'était juste des réalisateurs, juste des techniciens, voilà. Véritablement, et ils se voyaient comme des techniciens. Fritz Lang l'a très bien dit.
Je pense pas que ces profils-là que tu as cités aient été avalés par les studios.
Ce qui est drôle, c'est que le Hollywood, et tu le dis, hein, est opportuniste. C'est une industrie qui est opportuniste et qui est une industrie qui est, on va dire, aveugle, parce qu'elle ne suit qu'une logique, qui est la logique de l'argent. Donc finalement... Que des gens talentueux arrivent à Hollywood pour que ce soit une raison horrible comme la Seconde Guerre mondiale ou une autre raison, ils sont là, on peut les utiliser, on les utilise, ils font des films et ils font de l'argent tout simplement. Donc on va dire qu'il y a une sorte de pragmatisme froid et d'opportunisme, autant les utiliser. Et c'est vrai que dans les 41, c'est une année qui est encore une des premières années de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est encore tout jeune. Mais il y a une, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une différence entre 41, qui est la première année où ces réalisateurs comme Renoir et René Clair et Duvivier arrivent, et les premiers films, on va dire, sont relativement, on va dire, communs. C'est pas des films qui sortent du lot, on voit pas trop leurs pattes, on voit pas trop des sujets qui, c'est pas des sujets qui ressemblent à ces réalisateurs-là. Par contre, en 42, 43, enfin plus tard, leurs films plus tard, on remarque que après 1, 2, 3 ans à Hollywood, ces réalisateurs-là arrivent à faire des projets qui leur ressemblent plus. Et il y a vraiment une évolution. Ouais, ouais.
En revanche, il y en a beaucoup qui vont retourner aussi dans leur pays respectif ensuite. Hein. D'ailleurs, c'est compliqué parce que, par exemple, Renoir, il a fait beaucoup d'allers-retours. Il a fini sa vie aux États-Unis. C'est rare qu'un réalisateur qui ait déjà une carrière dans un pays... passe vraiment ensuite, termine toute sa carrière à Hollywood. Souvent, ils ont besoin de faire des petits allers-retours.
Le cinéma américain, on l'a dit, est opportuniste, et c'est pas la première fois qu'ils se prennent une vague d'immigrés en pleine poire, entre guillemets, parce que le cinéma américain, c'est un cinéma qui s'est fait avec les Irlandais dans les années 1900-1910. Donc c'est un cinéma qui s'est construit avec les Irlandais, les Italiens,
les Hongrois
beaucoup. Donc c'est un cinéma d'immigrés avant tout et qui accueille du coup en 30-40 d'autres immigrés. Donc finalement, Hollywood, c'est un grand nom, mais c'est surtout beaucoup de profils et beaucoup de gens qui sont surtout pas américains de base, en fait, surtout pas dans ces années-là. Hein. C'est surtout pas des gens qui sont nés aux États-Unis la plupart du temps. Pas encore, on va dire. Mais même si on voit avec Fritz Lang en 41, quand il fait Chasse à l'homme, que Fritz Lang, évidemment, ne peut s'empêcher de tuer Hitler, en tout cas de faire un attentat à Hitler par film interposé. Hein. On verra aussi, surtout en 42-43, que le cinéma US, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là aussi, il ressemble beaucoup à un cinéma de résistance de l'extérieur, on va dire. Tous ces immigrés-là, ils vont utiliser des films pour à charge un petit peu pour faire peser un poids, pour passer des messages. Fritz Lang dans Chasse à l'homme, Lubitsch dans Too Be or Not To Be, qui ridiculise le Führer, Douglas Sirk qui va réaliser un film qui s'appelle Hitler's Madman, sur un assassinat d'un SS notamment. Jean Renoir, il va réaliser en 1943 un film qui s'appelle Vivre libre, qui est un film anglais sur une institutrice en pleine France occupée. René Clair qui va tourner dans le film Chorale qui s'appelle Et la vie recommence, qui montre justement une Seconde Guerre mondiale vue d'Angleterre, etc., etc. Donc c'est beaucoup de films de la part de ces réalisateurs qui sont des objets de résistance malgré tout. Je sais pas ce que
bien sûr, mais c'est même un outil de propagande. Enfin, le cinéma ensuite est utilisé par les Américains comme un outil de propagande extrêmement efficace, qui parle à un nombre incalculable de personnes. Et c'est pas pour rien que le cinéma américain des années post-Pearl Harbor, donc à partir de 42, 43 et tout ce qui suit jusqu'à la fin de la guerre, pour eux, c'est plutôt 45, hein, c'est pas 44, parce qu'après, il y a la guerre dans le Pacifique. La production américaine utilise la machine cinématographique pour passer un nombre de messages incalculables, bien sûr, de propagande et supporter l'effort de guerre, en fait.
Bien sûr, et sachant qu'en 41, les États-Unis ne sont pas encore dans le conflit, hein, ils sont encore spectateurs, ils vont rentrer dans le conflit, comme on l'a dit, le 8 décembre 41, au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, par les Japonais, qui va du coup les faire rentrer de plein pied dans le conflit. Donc c'est peut-être pour ça qu'en 41, encore, les films sont encore un petit peu timoré, on va dire, un peu sur la défensive, un peu vraiment, après, en point de vue spectateur. Après, ça va devenir vraiment la machine de propagande vénère. Ok, on nous a attaqué, ok, on va vraiment utiliser Hollywood. D'ailleurs, on a tous vu dans notre enfance, hein, des cartoons Bugs Bunny et Daffy Duck ou Mickey qui foutent des ch'tards ou qui foutent des beignes à Hitler ou qui ridiculisent. Ouais. Ben, on a tous vu ces cartoons de propagande anti-nazi de notre enfance, hein, c'était assez atypique d'ailleurs. On a fait la France, là on a fait les Français qui partent à Hollywood. Et pour le troisième thème de cet épisode sur 1941, on vous propose de partir encore plus à l'ouest, définitivement à l'ouest, pour s'installer aux États-Unis et pour s'attarder sur une figure, une personnalité forte de ce cinéma américain, de ce cinéma en 1941. Le troisième thème, c'est parti, petit sonore.
They called me the one-eyed bandit. And why not? I sure gave Hollywood one hell of a run for its money. American iconoclast of the movie business, you bet. Because I invented the role. Like to make pictures my own way, but never let on. For me, cinema is action. My pictures move fast, my characters travel lonely.
My life in the movies seems to be the story of Hollywood itself.
Ma vie ressemble à l'histoire d'Hollywood lui-même. Cette voix que vous avez entendue, cette voix un petit peu granuleuse, cette voix basse, sourde, c'est celle de Raoul Walsh, réalisateur américain, qui va être au cœur de notre troisième thème. Alors, Raoul Walsh, c'est un homme qui a été, avant d'être un réalisateur américain, qui a été un peu touche-à-tout, qui a été cow-boy, qui a été acteur, qui a traversé littéralement toutes les époques du cinéma et toutes les époques de l'Amérique. Pour info, c'est même lui qui a donné son nom à John Wayne, on le verra plus tard dans un petit extrait sonore. Thomas, toi qui connais bien ce réalisateur, c'est qui Raoul Walsh? Tu peux nous en parler?
Oui, je suis très heureux d'en parler parce que c'est quelqu'un dont on parle pas assez et que j'admire depuis que je m'intéresse au cinéma, donc depuis mes 6-7 ans et surtout depuis mes 10 ans. Et Raoul Walsh, c'est un type qui a réalisé plus d'une, au moins 130-150 films, qui est à la fois très important, et c'est un des rares réalisateurs dans le cinéma muet et dans le cinéma parlant, c'est-à-dire que ses grands films sont autant des films muets que des films parlants.
Parce qu'il a réalisé des films de 1913 à 1964. Il a une carrière qui est énormément large, hein, très très large.
Et il réalise, si tu veux, par exemple, le premier film qui coûte un million de dollars, qui est Le voleur de Bagdad. Donc il réalise ça en 24. En même temps, il réalise le premier film de, selon lui, le premier film de gangster d'une durée de long métrage qui s'appelle Régénération, qui date de 1915. Comme tu dis, il va découvrir John Wayne. On en parlera peut-être après, donc je vais
ouais,
pas
spoiler cette partie-là.
Et voilà. Et donc Raoul Walsh, c'est un type. Avant d'être réalisateur, c'est je pense que comme tous les réalisateurs à peu près de cette génération, ce sont des personnalités fortes. Et Raoul Walsh, avant de se tourner vers le cinéma et d'être réalisateur, c'est quelqu'un qui était marin, qui ensuite a été cow-boy, mais vraiment au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire
l'Ouest américain, quoi, le cheval, le château, le chapeau et le. Ouais.
Voilà, il accompagnait des troupeaux, il était cow-boy.
Le garçon vaché, quoi.
Il était vaché, exactement. Ensuite, il me semble qu'il a travaillé comme assistant pour un croque-mort. ensuite, il a été assistant d'un chirurgien français. Donc là, il se retrouvait à 23, 24 ans, à endormir, en fait. Lui, son boulot, c'était de donner le chloroforme aux gens qu'on allait opérer, donc de doser le chloroforme pour les endormir, et ensuite il assistait à l'opération. On est dans une ville du Far West, autant te dire que c'était pas joli joli. Il a une anecdote assez drôle sur le chirurgien, le français qu'il a un peu qui a été son mentor et qui voulait faire de Walsh un chirurgien. Voilà, en pleine opération, ils mettent le gars sur une table, ils lui ouvrent le ventre, et puis le médecin prend les intestins, les boyaux du gars et les fout sur le porte-manteau à côté.
Oh là là.
pour procéder à l'opération avant de tout remettre en ordre dans le ventre et voilà, enfin c'est ce genre de truc.
La stérilisation n'est pas forcément au rendez-vous.
Voilà, c'est le genre de truc qui vivait à cette époque-là. Ensuite, il est devenu acteur. Il a aussi travaillé avec Griffiths, autant comme acteur que comme assistant.
Donc, D.W. Ensuite... Griffiths, un réalisateur américain des années 1910-1920, extrêmement important, hein, qui a fait des grands blockbusters à l'époque, comme Naissance d'une Nation, etc.
Et ensuite, enfin, il devient réalisateur et il travaille aussi comme producteur. Alors bon, il va traverser comme ça, comme tu dis, plusieurs décennies du cinéma. Et je pense que son premier film aussi important, c'est un film, à la fois un documentaire et une fiction, qui s'appelle The Life of General Villa, qui est sur Villa, qui est en...
Pancho Villa.
Pancho Villa, ça s'est tourné en 1914, donc en pleine révolution. Pancho Villa tente de faire tomber le pouvoir mexicain. Et Walsh va aller tourner des prises de vue réelles, donc comme un documentaire, un reportage, si tu veux. Il va suivre Villa pendant plusieurs semaines, il me semble même pendant plusieurs mois, j'ai pas la date exacte, mais il va aller filmer Villa en train de conquérir ou de libérer, ça dépend des points de vue, les villages. Et il paraît qu'il aurait filmé des gens qui se faisaient fusiller et que ces images ont été... des prisonniers que Villa fusillait, ces images ont été refusées par la censure. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais qu'il n'en parle pas dans son autobiographie, mais en tout cas, il parle beaucoup de cette période avec Villa.
C'est vrai que si vous tapez Raoul Walsh sur Google et que vous voyez les images de ce personnage-là, c'est quelqu'un qui a l'air et qui renvoie une image de pas du tout politiquement correcte. C'est quelqu'un d'assez dur à cuire, hein, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Il a vécu des choses un peu folles, et puis il a l'impression qu'il fallait pas vraiment l'emmerder, hein, parce qu'il a toujours le gros cigare. Donc oui, c'est un peu ce mec qu'il faut pas trop emmerder, un peu un dur à cuire, qui a été marin, cow-boy. Tu l'as dit, hein, ouais, 140 films entre 1913 et 1964. Donc c'est une carrière assez phénoménale, surtout à Hollywood. Et il a à son palmarès, on va dire, une histoire assez folle, puisque c'est Raoul Walsh, lui qui a donné son nom à John Wayne. Puisque John Wayne, hein, évidemment, tout le monde connaît John Wayne, mais John Wayne ne s'appelle pas, bien sûr, John Wayne, c'est un pseudonyme. Il s'appelle Marion Mitchell Morrison. Raoul Walsh, eh ben, il va en décider autrement, comme nous l'explique et comme nous le montre cet extrait sonore.
When I was walking by the property department on the Fox lot one day, I saw this big fella come out, he was about 6'4". I said, have you ever been in a picture? He said, no, sir. I said, how would you like to be in a picture? He said, oh, I'd like it right well. I got him into a good buckskin suit and took a good test of him. They didn't like his name Morrison, and I read a book that I liked one time about Mad Anthony Wayne. I thought this Wayne was a great character. So I said, let's call him Anthony Wayne or Mad Wayne, whatever the hell you want to call him. Call him Wayne. Well, they call him John Wayne. That's how he got his name.
Voilà, en gros, il a vu un jeune homme sur un tournage aux accessoiristes, véritablement, et un journal bien bâti. Et il s'est arrêté, il lui a dit hey, tu voudrais pas être acteur? Et le jeune homme lui a dit bah ouais, j'aimerais bien être acteur, par contre ton nom là, Marion Mitchell Morrison, c'est pas top. Et Raoul Walsh explique qu'il était en train de lire un livre sur le général Wayne, Anthony Wayne, qui est un général américain, et quand il a fallu trouver un nom à cet acteur, il a proposé, en tout cas ils lui ont trouvé comme nom John Wayne. Et donc Raoul Walsh est celui qui a donné son nom à John Wayne, qui est une anecdote pas piquée des hannetons, si tu me permets l'expression, Thomas. En 41, Raoul Walsh, il fait 4 films. Un dimanche après-midi, un autre film qui s'appelle L'entraîneuse fatale avec Dietrich et Edward G. Robinson. Un autre grand film qui s'appelle La charge fantastique, bien sûr. Et un autre film qui s'appelle La grande évasion, High Sierra, avec Humphrey Bogart et Ida Lupino. À ne pas confondre, bien sûr, avec l'autre grande évasion, de 1963 avec Steve McQueen. Donc il fait 4 films en 41, qui, donc des drames sociaux, un biopic assez flamboyant comme celui du général Custer dans La Charge Fantastique, et un thriller action-drama avec La Grande Évasion. Là, 41, ça montre une certaine diversité. Est-ce que la filmographie de Raoul Walsh, c'est cette diversité-là en permanence? Est-ce que Raoul Walsh, c'était quelqu'un qui faisait un peu de
oui,
tout?
Oui, alors Walsh est connu vraiment, ou en tout cas, il est retenu pour ses films de gangsters et ses westerns, qui sont ses plus grands films. Mais effectivement, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement... qui varie complètement les sujets, mais parce que aussi à cette période-là, on est affilié à un studio et on travaille en fonction de des... Alors parfois, on peut arriver avec des sujets qui nous tiennent à cœur, mais on est aussi un peu des hommes de studio, hein, c'est-à-dire que on reçoit des commandes et il faut les abattre
oui,
et les tourner.
Donc on choisit quoi. Pas. Ouais, bien sûr.
Oui, alors après, évidemment, c'est-à-dire que des gens comme Walsh, des gens comme Ford, comme Hathaway, mais dans une autre mesure, hein, bien que ce soit des techniciens, c'est quand même des gens qui ont une vision artistique, c'est ce qu'on disait au début de l'émission.
Bien sûr.
Voilà, et qui ont une patte qui leur est propre. Tu reconnais un film de John Ford à la première image et tu reconnais un Walsh beaucoup dans son rythme d'ailleurs. Plus
oui,
que...
c'est un nom, hein, parce qu'il est en grand sur les affiches. Harold Walsh, c'est quand même quelqu'un qui est. C'est un nom.
C'est un nom. C'est comme on le disait, comme c'est quelqu'un qui traverse quand même le cinéma, il va avec Griffith, avec Mary Pickford, dont il était très proche. Ils vont créer les premiers studios à Hollywood. Lui, ensuite, sera membre fondateur des Oscars. Donc, c'est quelqu'un qui vend quand même son nom quand il fait un film. Mais tous les sujets ne sont pas des sujets qui le passionnent. Et cette année 41, elle est intéressante parce qu'il y a 4 films très différents, comme tu dis. Donc, c'est assez représentatif de sa carrière. Et sur ces 4 films, on a quand même des niveaux d'intensité très variables. par exemple, High Sierra, donc La Grande Évasion, qui est peut-être
un classique
est peut-être le meilleur de cette année-là, et qui en plus est le film qui va, quand même, c'est important de le dire, qui va installer Bogart dans les premiers rôles. C'est-à-dire que Bogart, un deuxième rôle déjà assez connu, mais il va devenir un premier rôle et il va devenir qui il est avec High Sierra. Donc il y a des films comme ça, qui est un film de gangster très brut, très marqué, à des films un peu plus... Bon, c'est vrai que par exemple, Un dimanche après-midi tire un peu
c'est
plus...
Strawberry Blonde en anglais.
Strawberry Blonde tire un peu plus sur le rythme. Mais voilà, Walsh, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait adapter sa mise en scène. Et surtout, le cinéma de Walsh, de manière générale, les grands films de Walsh sont des films qui vont vite. C'est-à-dire que la coupe, le montage... sert le rien n'est gratuit et les plans font avancer le film de manière très mécanique et très rapide. C'est un cinéma qui est quasiment épuré dans il y a pas de gras en fait. On va vraiment il faut aller dans l'action et les plans servent toujours le film et ça c'est très 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 particulier notamment dans High Sierra, on le remarque vraiment par exemple, l'ouverture du film, on a 3 plans et on comprend tout de suite les tenants et les aboutissements. Enfin, on voit, on comprend tout ce qui se passe très vite chez Walsh.
Et c'est drôle parce que High Sierra, donc La Grande Évasion, qui suit donc Humphrey Bogart, qui sort de prison et qui accepte un dernier coup. Il se promet à lui-même que ce sera le dernier avant de partir, hein, d'où La Grande Évasion. Et ce film-là, entre autres, le fait d'être un film de gangster d'une certaine part. D'une certaine façon, c'est aussi un film assez bucolique. Il y a des séquences assez contemplatives, il y a un peu mélancolique, tu vois. Il cerne bien le personnage de Bogart.
Ouais.
Il en fait un gangster vraiment assez mélancolique
qui
se laisse apprécier
femme,
qui s'attache à une femme, qui s'attache à un chien, qui aime bien regarder les étoiles, qui aime bien regarder la nature autour de lui. C'est drôle parce que Walsh, on dirait, moi qui le connais moins que toi, on dirait qu'il prend le tropes, il prend l'icône du gangster et il le fout dans un contexte qui n'est pas du tout un contexte de gangster et il fait évoluer comme ça la figure d'une certaine manière, il la fait rentrer dans une autre étape, je pense.
C'est quelque chose qui est très effectivement qui est très intéressant chez Walsh, c'est-à-dire qu'il donne une douceur à ses personnages et il y a toujours un contrepoint en fait, c'est-à-dire que et il y a ça dans par exemple deux de ces très très grands films de gangster, White Heat. Qui date de 49 avec James Cagney, qui là joue un type complètement fou, un gangster sanglant, très agressif, très nerveux, mais qui en même temps est aussi un fils à maman, quoi, quelqu'un qui se réfugie dans les bras de sa mère. Ils ont toujours cette part d'enfance en eux ou cette douceur et qui rend les personnages de Walsh beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer. Et Bogart dans La Grande Évasion, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a cet attachement à ces deux femmes. On sent qu'il est attaché beaucoup plus à cette fille qui pourrait le sortir.
Bien sûr, oui.
De son monde de gangster, et en même temps, comme elle le rejette, il se sent obligé de s'attacher à Ida Lupino, qui est magnifique dans ce film, mais qui joue une fille
un peu paumée, quoi.
Et elle-même aussi un peu qui traîne quand même avec des gangsters et qui ne sortira jamais de ce milieu.
D'ailleurs, c'est drôle ce que tu dises effectivement sur la figure de ces hommes virils, ces hommes d'action qui montent dans ces films-là, parce que la même année, donc là on a Bogart dans Ice Sierra sous l'œil de Raoul Walsh, un Bogart qui est du coup un peu tout en douceur et en même temps c'est un gangster, et la même année Bogart fait le Faucon Maltais, voilà, c'est un gangster qui le tue, et la même année Bogart fait le Faucon Maltais, autre film noir véritablement, où aussi il est arme à la main aussi, ouais, montré. Donc ça montre en une année, en 41, on a ces deux facettes du cinéma de Bogart. Et d'ailleurs, c'est l'année où, du coup, tu l'as dit, où Bogart va exploser et va passer de cet acteur de second plan à cet acteur de premier plan qu'on connaît tous, hein. D'ailleurs, Casablanca arrivera en 42, l'année suivante.
Et Le Faucon Maltais est le premier film de John Huston et qui a lui-même co-écrit La Grande Évasion de Raoul Walsh.
Oui, voilà, donc c'est pas anodin. Que ça la même année, ouais, d'accord. On en a parlé dans un des précédents Années Lumière, quand on a fait l'année 1939, on a parlé de John Ford et avec Marc Moquin, et on s'était dit que John Ford avait aidé à construire une certaine idée de l'identité américaine, une certaine image des USA à travers ses films, à travers le western notamment, hein, comme La Chevauchée Fantastique par exemple. Qu'est-ce que Raoul Walsh a, lui, apporté au cinéma américain? Est-ce que tu dirais que Raoul Walsh a lui aussi participé à construire une certaine identité américaine, et de quelle manière, tu dirais?
Alors d'abord, il a, c'est quand même essentiel, il a découvert John Wayne, qui ensuite sera vraiment installé par
John Ford.
Par Ford.
John Wayne, c'est pas rien du tout, quoi.
Voilà, Ford en fera l'icône qu'il est devenu, mais il a quand même été découvert par Walsh, et d'une certaine façon, John, qui n'est pas plus américain que John Wayne. Donc quelque part, découvrir John Wayne, c'est...
un peu découvrir l'Amérique, finalement. C'est un peu le Christophe Colomb. C'est
peut-être découvrir l'Amérique. Non, mais... Donc bon, il y a ce fait d'armes-là qui est pas anodin. Et puis après, bon, Walsh... j'ai pas vu tous ces films, parce qu'encore une fois, il en a fait 140, ils ne sont pas tous trouvables, mais j'en ai vu une bonne trentaine, une bonne quarantaine. Et voilà, de ce qui ressort des films de Walsh, quand même, ce sont souvent des films très américains. Il y a évidemment la figure du cow-boy, mais il y a peut-être un petit peu moins de... C'est, disons que ses origines irlandaises ne sont pas forcément les plus présentes. Là où, par exemple, Ford... s'est beaucoup servi de sa passion pour l'Irlande et ce que ça représentait pour lui dans son cinéma américain. Walsh, en revanche, il est resté très américain.
Qu'est-ce qu'il a apporté, tu penses, toi, à ce cinéma américain? Est-ce qu'il a apporté quelque chose en particulier
Walsh, il va installer... C'est quelqu'un qui découvre des acteurs, c'est quelqu'un qui installe des gens, il permet... Donc, il trouve John Wayne, il va faire exploser Errol Flynn, Bogart... Cagney était déjà quand même très très connu, mais c'est vrai qu'il va lui donner des rôles qui vont changer à jamais la figure de Cagney. Mais bon, il avait déjà fait L'ennemi public numéro 1, enfin il avait déjà fait des films quand même qu'il avait installé, hein. Mais voilà, Walsh est quelqu'un qui va poser des acteurs. Olivia Davidson, il va aussi en faire une énorme actrice, même si elle est aussi déjà connue, si tu veux, mais il crée des icônes, en fait. C'est quelqu'un,
oui,
qui crée des icônes.
D'ailleurs, parce que Olivia de Havilland, donc, qui est une actrice qui est présente dans deux des films de 41, il me semble, dans Un dimanche après-midi, elle est là.
Oui, et elle est là.
Dans La Charge Fantastique. D'ailleurs, on la salue, hein, parce que Olivia de Havilland, pour ceux qui nous écoutent, est toujours vivante. Oui. Elle est à Paris. Elle a 100... 106 ans, là, hein. Il faut savoir qu'effectivement, elle a joué dans Autant en emporte le vent en 1939, elle a joué dans deux films de Raoul Walsh en 1941, Et elle est toujours vivante, elle est toujours parmi nous et on la salue si elle écoute ce podcast. Ça, c'est assez dingue. J'aime bien citer
elle
ce...
Elle est à Paris, hein, d'ailleurs.
Elle est à Paris, d'ailleurs. J'aime bien citer ce fait que Olivia Davilland est encore parmi nous et je trouve ça phénoménal. Donc, une légende pareille qui soit encore de notre monde, je trouve ça relativement dingue. Elle aurait pu nous parler de Raoul Walsh en direct, ça aurait été dingue. Ça aurait été fou, ça aurait été dingue.
C'est dans le 16e, mais pareil, c'est difficile à...
Ah oui, non, je pense qu'à 105 ans, 104 ans, tu parles plus aux gens, je pense. Mais voilà. S'il fallait voir, trois films de Raoul Walsh,
parce qu'il a
140 films, c'est compliqué à regarder. Donc, trois films de Raoul Walsh, conseillés par Thomas...
Écoute, moi je conseillerais White Heat. L'enfer est à lui, le titre français. Je conseillerais Les Fantastiques années 20 et je conseillerais un western qui s'appelle La Fille du désert, Colorado Territory, qui est un remake de La Grande Évasion que Walsh a aussi fait et qui est un film donc un remake mais au temps du western qui est un film absolument bouleversant. Voilà. Après, il y aurait des
la liste est longue évidemment.
D'autres films à voir, mais je pense que ces trois films déjà vous donneront une idée de qui il était.
Parfait. Ben écoute, merci beaucoup Thomas de nous avoir aidé à découvrir ou à redécouvrir ce grand monsieur qui était Raoul Walsh et ses films. Voilà qui conclut ce dernier thème de notre épisode sur 1941. Il nous reste à aller faire un petit tour du monde pour aller parler des films qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer pendant cette émission. Voilà pour cette année 1941. Alors 1941, c'était aussi en plus de on a parlé de beaucoup de choses, hein. En 1941, on a parlé du coup de ce cinéma français sous l'occupation, de ces réalisateurs français, de ces talents qui tournent en France sous l'occupation nazie. On a parlé de ces réalisateurs et de ces talents français qui tournent aux États-Unis, qui se sont exilés, et de tous leurs films. On a du coup aussi parlé de Raoul Walsh et de tout le cinéma américain et toute cette identité américaine qui l'a inspiré. John Wayne, on a évoqué John Ford, etc. Ida Lupino, Humphrey Bogart, on a parlé de toutes ces personnes-là. En 1941, au cinéma, c'est aussi plein d'autres films, bien sûr. C'est évidemment Citizen Kane d'Orson Welles. C'est évidemment Quelle était verte ma vallée de John Ford, Le Faucon Maltais, on en a parlé, c'est Dumbo des studios Disney qui sort en 41 également, on a Dr Jekyll et Mr Hyde de Victor Fleming, on a deux Hitchcock, Soupçon et Monsieur et Madame Smith, on a Le Loup-garou des studios Universal, hein, l'Universal Monster, Le Loup-garou, bref, énormément de films en cette année 1941, énormément de films pour ponctuer, on va dire, notre année. Mais nous, on a décidé de nous intéresser à des petites recommandations personnelles. Tu voulais commencer à nous parler de quelqu'un en particulier, toi Thomas, dans ton tour du monde.
Un autre réalisateur dont on parle peu et qui est aussi, avant d'être réalisateur, il est surtout scénariste, puisqu'il a scénarisé une centaine de films, qui s'appelle Preston Sturges, et qui en a réalisé une dizaine. Et en 41, il fait deux films, Un cœur pris au piège et Les voyages de Sullivan. Preston Sturges, il m'intéresse parce que c'est un réalisateur qui, dans ses 10-12 films, il va traiter de beaucoup de strates de l'Amérique à travers la comédie. Et c'est toujours très, très fluide, c'est très drôle, c'est très, très bien écrit, c'est pétillant, c'est intelligent. Voilà, c'est un réalisateur vraiment très jeune, en fait, dans sa manière de faire des films, très moderne. Et moi, c'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Et malheureusement, il n'y en a pas énormément qui sont disponibles. Mais dès qu'il y en a un qui passe au cinéma ou dès qu'il y en a un qui sort en DVD, je me le procure et je n'ai jamais été déçu. C'est toujours... moderne, drôle et vraiment intelligent. C'est très
d'accord, bah super, merci beaucoup Thomas pour cette reco. Preston Sturges, donc. Moi, pour compléter ce dont on a parlé en 1941, toujours dans cette année 41, j'aimerais vous conseiller de regarder 49e parallèle, film de Michael Powell et écrit par son compère Emmerich Pressburger. 49e parallèle, c'est l'histoire d'un sous-marin nazi qui va bombarder, qui va couler un navire au large du Canada, dans l'océan Atlantique, et qui va s'échapper de cette scène de crime en rentrant dans la baie d'Hudson au Canada, donc en pénétrant sur le territoire canadien. Un groupe de nazis va donc poser pied sur le sol canadien Le sous-marin va être bombardé. Du coup, le groupe de nazis va se retrouver démuni et sans aucun moyen de retourner vers leurs forces et va du coup devoir et du coup se cacher, on va dire, sur le territoire canadien et essayer de retrouver, de rejoindre les États-Unis qui, à l'époque, sont un pays neutre dans cette guerre mondiale, alors que le Canada, lui, est engagé. Et au-delà de cette galerie de personnages et de cette histoire qui est passionnante, c'est un film aussi qui est un film, le 49e parallèle, qui est un film très... qui ressemble beaucoup à ce que vont faire le duo Powell et Pressburger plus tard, c'est-à-dire un film qui a un aspect documentaire assez important. Et donc, comme on voyage à travers le Canada, bah, on voit le Canada dans toute sa splendeur, on voit des montagnes magnifiques, et c'est un film assez sublime et assez fou à regarder, et qui est dans la droite lignée de ce que fera le duo Powell et Pressburger, puisque Powell et Pressburger, ça va être les gens qui vont faire plus tard Les Chaussons Rouges, qui vont faire effectivement plein de films, Le Narcisse Noir, Le Voyeur, Le Narcisse Noir, qui est un film fabuleux, bon, qui vont faire des grands films visuellement bluffants et visuellement fous. Si vous voulez voir du cinéma visuellement qui vous décolle la rétine et visuellement époustouflant, et pour son époque et encore aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder les films de Michael Powell et Pressburger, c'est phénoménal. Voilà, film magnifique et réflexion sur le nazisme assez phénoménal et assez lucide pour l'époque, que je vous conseille chaudement, sorti donc aussi en 1941. Thomas, tu voulais, pour conclure notre émission, nous parler de recommander encore quand même un ou deux...
Tu les as cités, mais je voulais juste te dire, effectivement, 41, c'est quand même une année importante pour le cinéma américain. Je voulais un peu souligner ces deux films parce que c'est le premier film de John Huston, Le Faucon Maltais, et le premier film d'Orson Welles, Citizen Kane, bon, qui sont ni l'un ni l'autre, forcément à titre personnel, mes préférés de ces auteurs. Moi, je ne suis pas un dingue de Citizen Kane, mais il faut reconnaître que c'est des films qui vont chambouler.
Emblématiques, bien sûr, c'est des films voilà, que tout le monde connaît.
Chamboule le cinéma et pendant longtemps est considéré comme le plus grand film jamais fait. Et Le Faucon Maltais, disons, permet à un jeune scénariste de réaliser son premier film. Et John Huston, on sait aussi qu'il va traverser plusieurs dizaines d'années de cinéma et qui sera à l'origine de plusieurs chefs-d'œuvre absolus. Moi, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc c'était important de le dire.
Et c'est un immense film noir, hein, Le Faucon Maltais aussi, donc c'est un classique du film noir, donc c'est important effectivement de les voir.
C'est Howard Hawks qui a conseillé à Huston de le réaliser, parce que Huston ne savait pas quoi réaliser comme premier film, et Hawks lui a dit « tu devrais faire Le Dachau Lamet, Le Faucon Maltais », ce sur quoi Huston lui aurait rétorqué qu'il a déjà été tourné plusieurs fois, mais Hawks lui a dit jamais en copiant exactement les dialogues du livre. Donc il lui a dit vraiment serre-toi du livre, et ce sera un succès. Et le film est un grand classique.
Moi, j'aime bien dans Année Lumière effectivement parler d'autres films que ceux dont on parle tout le temps, mais c'est aussi bien de dire que en 41 c'était donc effectivement Citizen Kane et Le Faucon Maltais. T'écoute très bien, Thomas, voilà qui conclut notre épisode sur 1941. On a parlé d'énormément de choses, hein, du cinéma français sous le nazisme, du cinéma français à Hollywood, de Raoul Walsh, de Preston Sturges, de Michael Powell et Pressburger, de Orson Welles ici, et de John Huston, bien sûr. Bref, on a parlé d'énormément de choses dans cette année 1941 qui, vous l'aurez compris, était une année de cinéma assez particulière.
Deux petites recommandations. Pour ceux que ça intéresse de se plonger un peu plus dans la Continental, le livre référence, à mon avis, c'est Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, de Christine Leteux. Et ça, c'est chez La Tour Verte. Et puis ensuite, ceux que ça intéresse, Walsh, il y a son autobiographie, Un demi-siècle à Hollywood. Elle a été éditée deux fois. Et elle est en anglais, c'est Each Man in His Time. Maintenant, je ne sais pas exactement à quel point elle est trouvable. Mais
super, donc plein de livres à lire en recommandation de Thomas. Et donc toi, Thomas, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Donc tu as été le créateur de la revue Ciné Bazar. Rapidement, Ciné Bazar, c'est quoi, Thomas ?
Alors Ciné Bazar, c'est une avant on appelait ça une revue et y a un petit changement qui date de cette semaine où je pense que maintenant on va le présenter comme un journal de bord de cinéma.
Ouais.
C'est un objet de 300 pages, couleur, édité chez Rouge Profond, trouvable dans toutes les bonnes librairies de France, Suisse, Belgique, Québec, Amazon, et si tu veux, ça sort une fois par an et on discute. Voilà, moi, je m'entretiens avec une dizaine de personnalités du cinéma par numéro. Et puis, surtout, autour de ces entretiens qui font en tout à peu près 200 pages, il y a des entretiens qui vont jusqu'à 50 pages hein, quand même. Autour de ces entretiens, avec des réalisateurs aussi variés que John Borman, Roel René, que j'aime beaucoup, dont on ne parle pas.
Moi j'ai le numéro 4, il y a Paul Verhoeven dedans, il y a Vic Armstrong, il y a Michael Berryman, John Landis. Donc il y a quand même, tu as quand même du beau monde. Hein. Toi tu vas donc aux États-Unis de parler avec ces gens-là. Hein, quand même.
Voilà, exactement. Walter Hill. Et puis autour de ça, il y a une équipe quand même très, très nombreuse de personnalités. Que ce soit littéraire ou alors de cinéphile, de critique de cinéma, d'illustrateur qui participe à la revue. On est quand même une quarantaine à participer dans le numéro 7 et là le numéro 8 qui va sortir, on est une grosse trentaine en prenant en compte les 10 personnes toujours que j'interviewe. Mais donc voilà, ces gens-là vont parler de leur passion et avoir carte blanche pour écrire sur ce qu'ils veulent, un film, un réalisateur, une époque, avec une règle d'or qui est de ne cracher sur personne. Ce qui m'intéresse, c'est la passation de passion et on n'est pas là pour démolir qui que ce soit. On ne parle que de ce qu'on aime et que de ce qu'on a envie de faire découvrir aux gens. Le 8e va sortir prochainement et puis je travaille sur le 9e et puis... Voilà. En parallèle de ça, il y a un livre qui sort d'entretien avec Walter Hill, avec qui je fais des entretiens depuis 4 ans, qui doit sortir chez Rouge Profond, qui est prévu prochainement.
Je conseille d'ailleurs à ceux qui nous écoutent hein, le compte Instagram de Ciné Bazar, parce que vous pourrez y trouver les formidables photos de Thomas, des gens qu'il interviewe, notamment les belles photos de Walter Hill et de John Borman dont on a parlé. T'as vraiment des photos formidables, c'est des photos formidables que tu prends de ces gens-là et ça peut plaire aux gens qui nous écoutent Ciné Bazar et donc sur Instagram et donc en librairie. Voilà qui est dit, merci beaucoup, on arrive à la fin de cet épisode 10 d'Année-Lumière où on a parlé donc de l'année 1941. Merci Thomas d'avoir été mon invité, merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Je rappelle effectivement, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, de ne pas hésiter à le partager, à en parler sur les réseaux sociaux, Twitter. On est sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter bonne chance et bon courage dans ces futures semaines de confinement.
Exactement.
À vous donner rendez-vous très très vite pour un prochain épisode d'Année Lumière où on va encore parler d'une nouvelle année de cinéma. Merci beaucoup Thomas.
Merci à toi, merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Salut, salut !